Max Jasinski, le bon larron. Les volets étaient clos dans l'arrière-boutique qu'il faisait bon grâce aux bûches qui flambaient. Sur une table, fumait un gigot cuit à point. Et devant le gigot, Périnet, sa femme, se sentait plein d'appétit. Soudain, un coup vigoureux ébranla presque la porte de la rue et une voix enrouée cria « C'est moi, Simon ! Ton ami, Simon, ton ami ! Ouvre-moi ta porte ! Ouvre ! Camarade ! Encore ! S'écrièrent les époux. Ils se regardèrent consternés. Puis l'une gémit et l'autre tendit le poing vers la boutique. Mais, comme au premier coup succédaient des autres coups aussi violents et de plus en plus rapprochés, comme ces coups dégénéraient en un roulement ininterrompu, Périnet se décida, se leva et s'en fut ouvrir tout en grommelant des injures, des jurons et des malédictions. Le visiteur, accueilli de si bonne grâce, n'avait pas une mine recommandable. Il était déguenillé, malpropre et malodorant. Sa barbe et ses cheveux formait de ténébreuses broussailles, ses mains velues étaient rudes comme des troncs d'arbres, ses yeux chassieux pétillaient. À la ceinture se balançait un coutelard dans un fourreau de cuir. Assurément, si on l'avait rencontré au coin d'un bois, on aurait immédiatement souhaité être ailleurs. Il entra, se plaignit bruyamment d'avoir attendu, puis il pardonna, et en signe de pardon, il embrassa Périnet, il embrassa madame, bien que l'embrassade fût reçue avec un visible dégoût par l'un et par l'autre. Il prit un escabeau, s'assit à table et invita les époux à s'asseoir. Alors, par jubilation, il tapa sur sa cuisse droite par jubilation et par affection, il tapa sur la cuisse gauche de Périnet. En déclarant « Oh, j'ai très faim. Voici un beau gigot. Oh, mes chers enfants, mangeons. Et toi, camarade, apporte-nous ton meilleur vin. Il faut fêter notre réunion. » On le servit largement. Il reprit du gigot. Il en reprit tellement qu'il laissa seulement ses los à ses convives. Il fit aussitôt aussi honneur au vin et s'enivra abominablement. Bon, son ivresse fut d'abord tendre. Il serra sur son cœur ses deux amis et annonça qu'il ne les quitterait plus. Et comme il ne répondait pas assez chaudement à ses transports, ce fut une ivresse mauvaise. Il dégaina et fit avec son coutelas de bruyant moulinet. Il se calma à force de bonnes paroles et ce fut une ivresse poétique. Il hurla, d'une voix heureusement fausse, une chanson dont il estropiait tous les vers. Et cela se termina par l'ivresse sentimentale. Il pleura sur les tristesses de sa vie errante, sur les dangers des grands chemins, sur la mélancolie du célibat. Les larmes coulaient sur ses joues congestionnées et se perdaient dans la broussaille de sa barbe. Il était minuit quand il se laissa mener au lit. Ce fut naturellement le lit de ses hôtes, où il s'étala avec ses souliers boueux et où il s'endormit aussitôt et où il fit des ronflements à faire trembler la maison. Il dormit d'un somme jusqu'au matin. Il se réveilla dispos. Il saisit dans le coffre les meilleurs habits qu'il prit en échange de ses guenilles. Il demanda à emprunter un peu d'argent et empocha la bourse du ménage. Et comme tout a une fin, même les choses déplaisantes, il s'en alla, le pas léger, le visage hilar, après des accolades dont on se serait passé volontiers. Et d'amico, à bientôt! Qui ne provoquèrent nulle joie. Il aurait même pu se dispenser de dire en partant « Ne vous ennuyez pas après moi !» Cette recommandation était superflue. Quand ils furent seuls, Périnée et sa femme parcoururent leur logis. Bouleversés, meubles écopés, coffres mis au pillage, linge déchiré, vaisselle bossuée, quel spectacle! Ils s'assirent sur des sièges épargnés par la tempête, puis ils eurent des regards douloureux. Cela ne peut plus durer! Affirma la femme. Ouais, il faut que cela cesse, confirma le mari. Mais nous ne pouvons plus héberger des brigands. Oui, d'autant plus qu'ils nous grugent, mangent nos dîners, s'habillent de mes vêtements et font leur seigneur avec mes écus. Oh non, ce sont des emprunts, sans doute, mais le remboursement n'arrive jamais. Ce n'est pas mon mari, parce que vous avez fait partie de leur bande, que vous devez vous résigner à cela. Bah, assurément, ma femme. Moi aussi, j'ai été brigand, j'ai été bandit. Mais je me suis rangé. Je suis à présent un honnête homme, bourgeois. Je suis marié et considéré dans mon quartier. Que me laisse donc tranquille. Vraiment, mon mari, vous ne pouvez plus fréquenter cette engeance. Mais hélas, ma femme, c'est eux qui m'imposent leur fréquentation. Tantôt, c'est Mathieu, tantôt c'est Jean, tantôt c'est Simon qui viennent voir. Quel mal mort, ils se remportent tous. En les chassant, nous exposerions, vous et moi, à être brutalisés, incendiés, égorgés. Et en les accueillant, nous empoisonnons notre existence. Oh oui, il faut que cela cesse. Oui, cela ne peut plus durer. Il réfléchit tout le jour, il réfléchit toute la nuit, il réfléchit le lendemain. Sa femme, inquiète, essayait de savoir. Il ne répondait pas aux questions. Il mangeait à peine. Il demeurait immobile, les sourcils froncés, muet, sourd, impénétrable. Et il découvrit enfin le moyen de sortir de cet embarras. Il s'en alla trouver l'évêque qui, en ce temps-là, était seigneur de la ville. Il lui tint à peu près ce discours. Monseigneur, je suis robuste et agile. Je sais me servir du couteau, de l'arc, de la lance. Je suis courageux, car après avoir détroussé des voyageurs, j'ai eu à combattre des fois pour conserver mon butin. Je suis estimable, puisque j'ai abandonné mon premier métier pour vivre honnêtement. Et je suis estimable également parce que je n'aurais pu et que je n'ai pas voulu, pour arriver à ma tranquillité, redevenir leur voleur, tire-laine, coupeur de bourse, rondeur des bois. Mais je suis persécuté par mes anciens compagnons. Cette vie vertueuse que j'ai choisie, ils me la gâtent. Oh, je ne le reproche pas, car ils croient que leurs visites me sont agréables. Mais, au contraire, ils me la gâtent, la vie. Eh bien, donnez-moi des armes et rejoignez-moi quelques gaillards déterminés. Je protégerai les foyers, j'arrêterai les larrons, j'empoignerai les vagabonds, j'attraperai les chiens perdus, j'assurerai la sécurité publique. Et si au cours de mes rondes je rencontre mes amis d'autrefois, je vous promets de les convertir ou de les pendre. Convertis, ils grossiront ma troupe et perdus, pendus, ils me feront montrer en la paix. Après avoir un peu songé, l'évêque accepta. Et c'est ainsi que naquit la gendarmerie.